le 7-9. Sur France Inter.
Restez avec nous, Alexandre Bompard. Étant donné que vous êtes rare dans les médias, Charline Van Hoenecker voudrait profiter de votre présence parmi nous.
Oh oui, s'il vous plaît, restez. C'est la première fois que j'ai devant moi un premier de cordée, un vrai, puisque vous avez grandi à Megève. Oh, ça fait rêver, monsieur Bompard. Vous êtes un winner, vous. Hein. C'est dommage, avec autant de pouvoir, de rester si discret. On a envie de mieux vous connaître. Le patron de Carouf, tout de même. Hein. Pourtant, c'était pas gagné. Au début des années 2000, vous étiez conseiller de François Fillon au ministère des Affaires sociales. Vous vous rendez compte? Vous êtes la preuve vivante qu'il y a des gens qui ont vraiment travaillé pour lui. Aujourd'hui, vous êtes un grand patron, et ça, c'est la classe. Par exemple, moi, quand je fais mes courses, j'achète des yaourts Carrefour. Vous, quand vous faites vos courses, vous achetez les magasins Carrefour. Alors que, bon, il y a quelques années, vous étiez donc le PDG d'Europe 1. Ça, c'est la magie quand on sort de l'ENA. Un jour, on vend de l'information et le lendemain, on vend des saucisses. Vous êtes comme Mireille Mathieu, en fait. Vous êtes là où on vous pose. Hein. C'est vous qui avez fait revenir Michel Drucker sur Europe 1. J'espère que vous n'utilisez pas les mêmes méthodes pour Carrefour, sinon bonjour la fraîcheur des produits. Ensuite, vous êtes devenu le patron de la FNAC que vous avez fusionné avec Darty. C'est vous qui avez pensé à vendre des friteuses dans les rayons de la FNAC. Grâce à vous, aujourd'hui, on peut acheter un aspirateur entre Marguerite Duras et les Rolling Stones. Là, on sent le mec qui est passé par Canal+, et la radio. Hein. Mais tiens, j'y pense, monsieur Bompard. À Radio France, il y a peut-être une place de PDG qui se libère. Vous pourriez peut-être finir par nous diriger, hein, fusionner Carrefour avec Radio France. Ah bah moi, s'il y a un rayon charcuterie à France Inter, ça me choque pas. Regardez, derrière Nicolas de Morand, il y a moyen de prendre des jambons.
Mais oui, ouais, le charcutier vous salue.
C'est ça qui est formidable quand on fait l'ENA, c'est qu'on peut tout faire. Diriger une radio, vendre des frites surgelées, faire de la politique, engager Karen Cheryl, puis licencier 2000 caissières. C'est le même métier. Patron, ça consiste en deux qualités essentielles. Lire des tableaux Excel et tenter de fuir avant l'arrivée d'Élise Lucet. Hein. Il y a 25 ans, quand le patron de Carrefour a quitté l'épicerie, il est parti diriger la NPE. Je ne vous conseille pas de poursuivre à la tête de Pôle emploi, parce que vous allez retrouver tous les employés que vous venez de virer. Hein. Alors en ce moment, quand t'es caissière à Carrouf, t'as intérêt à oublier de scanner un Twix, hein, sinon c'est direct la DRH. Alors j'ai une pensée pour tous ces gens qui se demandent s'ils vont perdre leur emploi et qui tremblent. Heureusement, ils pourront toujours se dire, nous sommes la nation française.
Merci Charline Van Hoenecker, et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, attention, ça déborde. Le gouvernement impuissant face à la colère des gardiens de prison. 10e jour de conflit, les syndicats lâchent leur ministre. Ils ne veulent plus négocier avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Attention, ça déborde, mais cette fois dans les cours d'eau. 23 départements en alerte inondation. Le Rhin commence à baisser, mais la Seine monte encore. Opération calfeutrage dans les couloirs du RER à Paris, vous l'entendrez. Fini les 10 épreuves pour décrocher le bac. La réforme est sur les rails. D'ici 3 ans, les futurs bacheliers ne devraient plus passer que 3 écrits et un grand oral pour décrocher le diplôme. À 8h20, votre invité Nicolas, c'est le ministre chargé des champs et des assiettes, en quelque sorte. Vous recevez Stéphane Travert.
Oui, il est par ailleurs ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation. Notre invité à 8h20, vos questions au 01 45 24 7000. Vous aurez la parole vers 8h40.
Dans ce journal également, le drame des Rohingyas. Nous sommes retournés sur place au Bangladesh, aux côtés de cette communauté martyrisée. En France, les nationalistes corses qui en appellent à la rue, manifestation géante programmée pour faire plier le gouvernement. Et puis les experts tout près du but, les handballeurs français, retrouvent la Croatie ce soir pour rejoindre les demi-finales de l'Euro.
France Inter.
Mais d'abord une petite douceur pour commencer la journée. Que diriez-vous d'un peu de sucre pour partir du bon pied? Chacun de nous en avale en moyenne l'équivalent de 40 cuillères à café chaque jour. Mais un documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma en montre les dessous et les dangers. Le film s'appelle Sugarland, le pays du sucre, film coup de poing. Son réalisateur australien a joué les cobayes pendant 2 mois en ingurgitant, il n'y a pas d'autre mot, des produits de tous les jours, tous bourrés de sucre, sans qu'on le sache d'ailleurs. Le résultat se voit sur la balance et dans la tête, Véronique Julia.
C'est l'histoire d'un trentenaire en pleine forme, habitué à un régime composé essentiellement de produits naturels, qui décide de se mettre à manger comme tout le monde et d'ingurgiter chaque jour l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre. La quantité correspond à ce qu'on absorbe quotidiennement quand on mange des aliments transformés achetés au supermarché. Le résultat, au bout de 2 mois, 8,5 kg et 10 cm de tour de taille en plus.
Est-ce que je franchirais le seuil de l'obésité ?
Absolument. Un foie devenu gras, une baisse d'énergie, des sautes d'humeur, le sentiment de n'être jamais rassasié et ce constat en ayant appris à lire les étiquettes que nos aliments transformés les plus courants sont bourrés de sucre. 8 cuillères à café dans un verre de jus de pomme et jusqu'à 34 cuillères dans un grand gobelet de smoothie vendu aux États-Unis.
Les habitants de notre planète deviennent chaque jour un peu plus malades. Et beaucoup de scientifiques estiment aujourd'hui que le fructose en est en grande partie responsable.
Depuis les années 70, où le consensus scientifique a semblé dire que le gras était pire que le sucre, l'industrie agroalimentaire s'est engouffrée dans la brèche. Elle a mis du sucre partout, en minimisant ses effets et en développant l'addiction. Le réalisateur associe la méthode à celle des industriels du tabac. Arrivé au bout de son expérience, il compare d'ailleurs son sevrage en sucre à celui d'un fumeur qui abandonne la cigarette. Sensation de manque, souffrance, mais au bout du chemin, la forme et la santé retrouvées.
Sugarland, documentaire australien de Damon Gamow à découvrir cette semaine au cinéma.
8h03, ils ne veulent plus d'elle.
Dialogue rompu entre les gardiens de prison et leur ministre Nicole Belloubet. Les négociations hier ont tourné court. Les syndicats ont quitté la table. Ils refusent désormais de reprendre les discussions avec la ministre de la Justice. Nicole Belloubet désavouée, disqualifiée, dit même la CGT pénitentiaire, qui en appelle désormais à la nomination d'un médiateur. Corinne Audouin.
Dans l'entourage du Premier ministre, les mots sont clairs. Nicole Belloubet a toute la confiance d'Édouard Philippe. En allant à Vendin-le-Vieil, puis à Borgo, à la rencontre des surveillants blessés et des syndicats, elle a réagi avec empathie et énergie, souligne-t-on. Face au malaise des personnels, confrontés depuis des années à la surpopulation carcérale, aux violences et désormais à la gestion compliquée des détenus radicalisés, difficile de faire peser sur la seule Nicole Belloubet l'absence de solution immédiate au conflit. Les syndicats FO et CGT demandent pourtant qu'elle passe la main, à l'image de Christopher d'Orangeville, secrétaire général de la CGT pénitentiaire.
Clairement, aujourd'hui, la ministre est totalement hors jeu. Pour nous, maintenant, il va falloir qu'un médiateur du gouvernement prenne la place justement dans les négociations, puisqu'elle est incapable de gérer ce conflit, clairement, pour nous aujourd'hui. On a l'impression qu'elle ne prend pas conscience des problématiques du terrain. Voilà.
Elle est mal entourée, mal conseillée, souligne un autre syndicaliste. Son image de technicienne, juriste, bosseuse et appliquée joue sans doute contre elle, là où un ministre plus politique, à la façon de Christiane Taubira ou Jean-Jacques Urvoas, tirerait mieux son épingle du jeu. Nicole Belloubet affichait d'ailleurs une certaine modestie au moment de sa nomination à ce ministère sensible. « Je ne suis pas sûre de réussir, mais j'ai l'espoir d'y parvenir. »
Des gardiens de prison qui menacent également de perturber la tenue du procès de Jawal Ben Daoud, surnommé le logeur de Daesh. Il avait hébergé deux des terroristes du 13 novembre dans un appartement de Saint-Denis. L'audience doit commencer aujourd'hui, mais les gardiens menacent d'empêcher son extraction de la prison de Fresnes et son transfert jusqu'au tribunal. Un retard ou un report qui serait un coup dur pour les 300 parties civiles, car de nombreuses victimes des attentats ont tenu à être là. Charlotte Piret.
Trois salles ont été mobilisées. Un écran géant disposé dans la salle des pas perdus, une organisation exceptionnelle pour accueillir les nombreuses victimes du 13 novembre. Elles sont plus de 300 à s'être constituées partie civile et d'autres peuvent encore le faire aujourd'hui, même si ce procès n'est pas celui des attentats et de leurs préparatifs. C'est en tout cas ce que maître Gérard Chemla a dit à la centaine de clients qu'il défend.
Je suis même allé plus loin que ça, j'ai dissuadé mes clients de se constituer partie civile. C'est-à-dire que je leur ai dit « Attention, vous n'allez pas sortir satisfait de ce procès-là. Il ne vous donnera pas d'explication sur ce qui s'est passé. On n'est pas sur le procès du 13 novembre, on est sur le procès du 16 ou du 17, c'est pas la même chose. »
Pas la même chose, mais un élément du même puzzle tragique considère d'autres victimes. Maître Frédéric Giffard représentera plusieurs parties civiles dans ce qui est devenu un procès hors norme.
Dans l'immédiateté post-attentat, elles ont aussi souffert de cette cavale, de ce doute, de cette incertitude sur ce qui allait se passer. Elles avaient peur que ça recommence, elles étaient très choquées et elles ont envie effectivement d'être associées à ça.
Des parties civiles qui réclament par ailleurs la requalification des faits reprochés à Jawad Ben Daoud en retenant le caractère terroriste de ses actes. Si c'est le cas, le logeur des djihadistes n'encourra plus 6 mais 12 ans de prison.
Charlotte Piret, c'est le troisième homicide par balle commis à Marseille depuis le début de l'année. Un homme de 30 ans retrouvé mort hier soir dans le 14e arrondissement. 29 douilles découvertes sur place. Les enquêteurs penchent pour un nouveau règlement de compte.
France Inter, 8h07, c'est le mois de janvier le plus humide en France depuis 1900.
Et il n'est pas terminé, hein, Nicolas, mais il est tombé depuis le 1er janvier 5 fois plus de pluie que la normale. Bonne nouvelle évidemment pour les agriculteurs, beaucoup moins pour les riverains des cours d'eau en crue. 23 départements restent ce matin sous surveillance. Dans le Doubs, la Loue a commencé à baisser, tout comme le Rhin, sur lequel la navigation reprend au compte-gouttes. La Seine, elle, continue de monter. Son niveau pourrait frôler, voire dépasser dépassé celui de la crue de juin 2016. Mais en attendant le pic prévu pour vendredi ou samedi, il faut aussi barricader les stations du RERC situées le long du fleuve et qui menacent de prendre l'eau. Elles sont fermées au public jusqu'à vendredi et les ouvriers s'y affairent de jour comme de nuit. Reportage Farida Noir.
Vous ferez attention parce que c'est glissant.
Station Musée d'Orsay, Cédric Laval dirige l'unité en charge de la maintenance de tous les ouvrages d'art et il nous emmène dans le tunnel sur une opération de pompage.
Vous avez ici en fait le type de problème qu'on rencontre. L'eau stagne avec une installation électrique ici qu'il faut absolument qu'on préserve. Donc on a rajouté un système de pompage d'appoint pour pomper l'eau et depuis ce point là-bas, on recrache l'eau dans la Seine. Tout l'enjeu est là, c'est que ces installations ne soient pas endommagées. Moins on en aura à changer, plus vite on pourra rouvrir au train.
L'eau n'a pas envahi les tunnels, mais depuis le début des opérations, 10 000 mètres cubes d'eau sont recrachés chaque heure dans la Seine, sur l'ensemble de la ligne. Les équipes se relèvent 24 heures sur 24 dans les tunnels.
Doucement, les gars.
Mais aussi à l'extérieur, près du quai du Carrousel, Jean-Michel Ajorge, technicien d'appui d'ouvrage d'art, dirige une cordée de deux hommes, suspendus à plusieurs mètres pour une opération délicate.
On est en train d'effectuer la fermeture des baies de ventilation du tunnel de la ligne C du RER, donc 4 baies fermées. Ça consiste à appliquer des plaques, boulonner, de manière à rendre la baie complètement étanche. Un ventilateur fonctionne avec de l'électricité, enfin il y a un coffre électrique, donc c'est ce qu'on vient protéger.
Des opérations et des équipes qui seront renforcées dans les prochains jours avec le pic de la crue attendu en fin de semaine.
Des prunes comme s'il en pleuvait, là ce n'est plus la météo. Les contraventions sur les routes ont atteint un niveau record l'an dernier en France. 27 millions de PV dressés. Ce sont les petits excès de vitesse, ceux de moins de 20 km/h qui tiennent le haut du pavé.
Rien ne va plus entre Paris et la Corse.
Grosse colère des élus nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Ils étaient venus plaider leur cause en début de semaine dans le bureau du Premier ministre. Mais visiblement, Édouard Philippe ne veut pas entendre parler de certaines de leurs revendications. Pas question notamment de modifier la Constitution pour y ajouter un article sur le statut de Lille. Du coup, les deux leaders en appellent désormais à la rue. Ils promettent d'organiser dans les jours qui viennent une immense manifestation. Cyril Graziani.
Lundi soir, en sortant de Matignon, les nationalistes avaient du mal à masquer leur déception. Mais ils espéraient encore qu'Emmanuel Macron donnerait le « là » lors de sa visite prochaine en Corse et accéderait à certaines de leurs demandes. Hier, ce mince espoir s'est envolé, alors ils ont décidé de durcir le ton. Déjà, ils se disent choqués par la désinvolture du gouvernement. Le Premier ministre et ses ministres sont arrivés devant nous sans feuille ni stylo, raconte un des participants. Au-delà de l'anecdote, c'est surtout le contenu qui les a braqués. Nos revendications, rien, lâche Gilles Simeoni. La révision constitutionnelle, il n'y aura pas de spécificité corse, poursuit-il. Pour lui, ce n'est plus une discussion, mais une capitulation. Sur l'île, ses troupes risquent en effet de l'entendre ainsi. Je suis un homme de paix, de recherche d'équilibre, mais je ne serai pas l'homme des reniements, des renoncements, s'exclame le président de l'exécutif, qui prévient Emmanuel Macron. Nous allons faire descendre 30 à 40 000 personnes dans les rues de Corse avant sa venue, annonce Simeoni, et advienne que pourra.
Pas de logo, pas de marque et pas non plus de signe religieux ostentatoire. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait adopter ce matin une réforme du code vestimentaire des députés. C'est le député insoumis François Ruffin qui avait relancé le débat en se présentant vêtu d'un maillot de foot à la tribune. Les députés qui ont adopté cette nuit le droit à l'erreur pour les particuliers. Le principe, c'est qu'un contribuable ou un administré qui se trompe pour la première fois et en étant de bonne foi verra ses pénalités réduites ou supprimées.
Pas de droit à l'erreur en revanche quand on passe le bac, mais l'examen change de visage.
C'est le sens du rapport Mathiot qui est remis aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Plusieurs nouveautés comme la fin des filières au lycée. Terminée aussi la dizaine d'épreuves à passer en terminale pour décrocher le bac. À la place, trois écrits et un grand oral d'une demi-heure, Sonia Bourane.
Fini les séries telles qu'on les connaît, les lycéens des voies générales et technologiques devront choisir en première et terminale deux disciplines majeures et deux mineures, en plus des matières de tronc commun, c'est-à-dire l'EPS, l'histoire géo, deux langues vivantes, les mathématiques, le français en première et la philo en terminale. 15 heures de cours seraient consacrées au tronc commun en première, 12 heures en terminale, et une dizaine de combinaisons de majeures seraient proposées, comme maths physique, lettres langues. Quant au bac, il serait resserré autour de 4 épreuves finale en classe de terminale au lieu d'une dizaine actuellement, deux épreuves sur les majeures après les vacances de printemps, puis en juin, l'épreuve de philosophie inchangée et une nouveauté, un grand oral de 30 minutes qui porterait sur un projet sur lequel l'élève aurait travaillé dans plusieurs disciplines. Le bac de français en première serait maintenu. Toutes ces épreuves compteraient pour 60% de la note du bac. Pour le reste, plusieurs propositions. Un contrôle continu à partir des notes de première et terminale, mais on sait que la notation n'est pas la même d'un lycée à l'autre, ou des examens type partiel en fin de semestre, ou bien encore les deux à la fois. Ce sera au ministre de trancher.
C'était Sonia Bourane.
À l'étranger, Marc, le calvaire continue pour les Rohingyas.
France Inter a choisi de retourner sur place au Bangladesh où près d'un million de membres de cette communauté musulmane ont fui ces derniers mois. Ils ont quitté leur village en Birmanie, persécutés par l'armée et s'entassent désormais dans d'immenses camps de réfugiés à la frontière entre les deux pays. Bonjour Philippe Randé.
Bonjour.
Vous rentrez du Bangladesh. On vous a entendu tout à l'heure dans le Zoom évoquer leur difficile retour en Birmanie malgré l'accord conclu entre les deux pays. Les premiers retours qui devaient avoir lieu hier n'ont pas eu lieu, sans doute, peut-être en tout cas en raison de ce que les femmes Rohingyas ont vécu avant de partir. Vous avez recueilli plusieurs témoignages très durs sur des viols commis par l'armée birmane.
Assise sous sa tente, Saléa, 22 ans, chuchote au moment d'évoquer son viol. Un jour, vendredi, 1h, midi, un village Sangana, un lieu, la maison en bois dans laquelle elle vivait.
Soudain, les militaires sont entrés. Ils m'ont attrapé comme on attrape un poulet. Ils m'ont arraché l'enfant des bras, puis m'ont arraché mon collier. Je me suis débattue. Deux hommes me tenaient les bras, un autre les jambes. Le quatrième a commencé à me violer. Un seul ne m'a pas violée. Le monde s'est écroulé. Ils sont partis. J'ai pris un bain, je pleurais. Le lendemain, ils ont mis le feu au village. Du coup, on est parti au Bangladesh.
Le samedi, Saléa, traumatisée, quitte le village. Son mari, Mohamed, est obligé de la porter pendant plusieurs kilomètres. Mohamed qui, au moment du viol de sa femme, s'était caché dans la jungle.
Ils étaient venus pour nous tuer, nous les hommes, et on s'est cachés. Nous tuer, nous brûler, d'accord, mais pourquoi violer nos femmes? Ils sont allés dans toutes les maisons et ils n'en ont oublié aucune.
20 mètres et 200 cahutes plus haut dans la colline, Minara, 18 ans, elle habitait, elle aussi, à Sangana. Le même jour, trois militaires l'ont violée.
Ils sont arrivés, ils ont fermé le village. Ils entraient dans les maisons, je les voyais depuis le toit. Et puis ils sont venus chez moi, ils ont cassé la porte. S'ils étaient là devant moi, j'aurais pas seulement envie de les tuer, je pourrais aussi les manger.
Et quand on lui demande si elle espère retourner à Sangana, Minara fronce les sourcils. Un jour j'y reviendrai, oui, mais avec la citoyenneté birmane.
Merci Philippe Randé, reportage à retrouver avec vos photos et vos vidéos sur franceinter.fr. Et puis ce soir, en version longue, en quelque sorte, dans Un jour dans le monde, à partir de 18h15 avec l'ami Fabienne Saintès. À l'étranger encore, la Libye, frappée par un double attentat dans la ville de Benghazi, dans l'est du pays. Une explosion devant une mosquée, puis une seconde, quelques minutes plus tard à l'arrivée des secours. Elles ont fait 33 morts, pas de revendication pour l'instant.
Pas le moment de flancher, Marc, pour les experts.
Les handballeurs français ont l'occasion de valider ce soir leur ticket pour les demi-finales de l'Euro. Ce sera face à la Croatie, chez elle, puisqu'elle organise la compétition. Un Croatie-France qui en rappelle un autre. C'était en 2009, finale des Mondiaux. Cette fois, la France s'était imposée dans cette même salle de Zagreb. Xavier Vonferrand.
Des briquets, des téléphones portables, des pièces de monnaie, de quoi remplir un sac de sport. Ce 1er février 2009, le public de Zagreb a balancé tout ce qu'il avait dans les poches pour saluer à sa façon le titre mondial des experts. Guillaume Gilles était sur le terrain, celui qui est devenu l'entraîneur adjoint des Bleus en garde un souvenir impérissable.
Personne ne viendra me l'enlever parce que c'était tout simplement incroyable. Jouer dans des ambiances pareilles, c'est unique. Le handball, c'est comme une religion ici. Par moments, il y a un peu d'excès, mais c'est génial de voir aussi un engouement pareil autour de notre sport.
Désormais, ils ne sont plus que 4. 4 experts à avoir vécu cette finale il y a 9 ans et à porter encore le maillot bleu. Nikola Karabatic est de ceux-là. Lui, qui est d'origine croate, en garde un souvenir très personnel.
Je chante l'hymne français, c'est mon hymne national, mais le fait d'entendre l'hymne de la Croatie comme ça en finale de champion du monde, ça avait été quelque chose de très fort pour moi. Surtout quand ton père la chante, et ce que ça représente pour lui. Donc ça a été vraiment une grande, grande finale et un souvenir qui restera gravé à jamais.
Et même si Nikola Karabatic est une vedette en Croatie, tout le monde le connaît, lui demande une photo ou un autographe, il le sait, ce soir, il sera conspué sur chacun de ses ballons, mais il prend cela comme une marque de respect. Zagreb, Xavier Monferrand, France Inter.
Voilà, les Bleus qui, avant cette rencontre, ont déjà un gros orteil en demi-finale. Pour se qualifier, ils ont besoin d'une victoire, d'un nul ou d'une défaite avec moins de 8 buts d'écart. Sortez les calculettes ce soir.
Merci Marc Fauvel. 8h16, la météo.